13h, le grand déballage avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour à toutes et à tous, ravi, vous le savez, de vous retrouver. C'est toujours un plaisir en ces début de semaine avec un nouveau programme. Alors, au sommaire, ce matin, ce que je vous propose, c'est de se intéresser tout simplement à l'activité économique qui, on vous le disait, évidemment, a connu un ralentissement extrêmement record au mois de mars et au mois d'avril en raison de la pandémie du coronavirus. Eh bien, nous allons nous intéresser à tout cela, vous savez, dans un premier temps, avec un économiste stratégiste qui sera avec nous dans une poignée de minutes, justement, pour nous expliquer les raisons de cet effondrement, ou pas d'ailleurs, brutal. Et puis tout à l'heure, nous intéresserons aussi également, vous savez, avec un portrait d'un propriétaire de plusieurs restaurants en France et dans le monde. Et avec lui, on va essayer de comprendre comment il a géré cette histoire du coronavirus et de la pandémie dans le monde. Et puis enfin, 12h35 précisément, nous serons avec le député Alexis Corbière qui viendra nous livrer un petit peu son témoignage et puis nous livrer surtout sa réaction face au déconfinement, face au, et aussi également l'après, mais également surtout le 11 mai. Que va-t-il se passer? Progressif ou pas? Voire peut-être, est-ce qu'il y a ce risque de prolongement de ce confinement? Voilà le menu que je vous propose, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, nous allons accueillir eh bien, Rachid Medjaoui. Bonjour. Bonjour, vous êtes avec nous. Vous êtes le directeur adjoint de la gestion active financière de la banque privée BPE. Vous êtes économiste stratégique, vous êtes gestionnaire de portefeuille financier. Alors dites-moi, monsieur le directeur adjoint, est-ce que ce coronavirus a provoqué finalement un effondrement de l'économie française?
Alors c'est une les superlatifs nous manquent, hein. On peut parler de déflagration économique, d'écroulement de l'activité économique, et on peut comme ça faire de la surenchère, mais ça traduit effectivement un arrêt total de l'activité, alors pas simplement en France, et c'est ça qui est également très 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 dangereux, c'est que on observe bien entendu cette déflagration économique, cet écroulement partout dans le monde. Alors, on n'a pas vraiment de repère historique. Pourquoi? Parce que c'est la première fois, au fond, qu'on a une crise économique, une récession, vous appelez ça comme vous voulez, qui n'est pas due à un choc exogène, c'est pas lié à de l'inflation, à un choc pétrolier, à des taux d'intérêt qui remontent fortement. C'est lié simplement, c'est la première fois qu'on a un choc économique, une récession, tout simplement parce que les gouvernements, partout sur la planète, ont décidé de fermer les économies, de les mettre en coma artificiel. Alors, je lis, je vois certains essayer de faire des comparaisons avec la grande récession de 2008. Eh bien, la récession qu'on est en train de connaître, qui a déjà commencé au premier trimestre, qui va s'accentuer au deuxième trimestre, sera pire que celle de 2008, qu'on appelait déjà la grande récession. Alors, je ne sais pas quel nom on va donner à cette crise. Mais la grande différence par rapport à 2008, c'est qu'a priori, il faut rester prudent, mais a priori, on ne devrait pas avoir de crise financière, avec notamment des risques de faillite bancaire. Certains comparent également avec la grande dépression des années 30, mais là aussi, je pense que la comparaison n'est pas très pertinente. On ne devrait pas avoir une destruction de l'activité aussi forte et surtout aussi durable que celle qu'on a connue dans les années 30, et surtout, j'espère, on ne devrait pas avoir des conséquences sociales aussi désastreuses avec, rappelons tous, les raisins de la colère. Alors face à cet écroulement...
Ben justement, je vous arrête, Rachid Medjaoui, parce que vous avez fait cette comparaison de 1930-1929 précisément. Bruno Le Maire lui-même, le ministre, parle d'un choc comparable à la grande récession de 1929.
Alors, il y a bien sûr une chute de l'activité. Faut se rappeler, hein, 29, d'abord, ça a duré plus. Enfin, on verra bien, cette crise ne fait que commencer. Donc peut-être dans quelques trimestres, on dira que finalement, c'est aussi fort que la Grande Dépression. Ça va beaucoup dépendre de l'évolution en fait de la pandémie. Mais la grande différence, c'est que, j'allais y venir, c'est qu'à la différence de la crise de 29-30, c'est que là, on a une réponse des États et des banques centrales qui sont colossales. Je crois que si les États ont tardé à prendre la mesure de cette crise sanitaire et donc à réagir préventivement, il semble qu'ils ont été tous, partout dans le monde, très proactifs puisque, comme vous le savez, tous les États ont mis en place des mesures de soutien économique et financière colossales avec un seul objectif, c'est faire en sorte, bien entendu, qu'il y ait le moins de morts économiques, c'est-à-dire que finalement, on puisse protéger les revenus des consommateurs et éviter les faillites des entreprises. Pourquoi ? Pour qu'une fois que la pandémie, une fois que cette pandémie sera terminée, on puisse avoir un rebond. En 29, on avait fait le contraire. Faut relire un peu ces manuels d'économie. En 29, la Banque centrale américaine à l'époque, suite au crash boursier de Wall Street, avait durci, avait réduit les liquidités bancaires. Et c'est ça qui avait précipité. Et puis, ce qui avait également donné cette grande dépression, c'est qu'à la suite de la crise boursière, à la suite de l'erreur de pilotage de la politique monétaire par la Réserve fédérale, on avait eu aussi, rappelez-vous, un mouvement de protectionnisme incroyable. Alors, c'est un risque peut-être qui menace avec notamment la dernière sortie de Donald Trump vis-à-vis des Chinois. Mais c'est la grande différence, c'est vraiment la réponse qui ne garantit rien, mais quand même, hein, les montants, hein, on pourrait passer des heures ici, mais les montants qui sont mis par les États et les banques centrales sont colossaux. Et au fond, c'est normal, puisque ce sont les États qui ont pris, c'est une décision politique d'avoir décidé de confiner, de mettre sous coma artificiel les économies. Il était normal que les États dépensent sans compter, quoi qu'il en coûte.
Alors,
pour reprendre les termes
du président Macron. Avec vous, Rachid Medjaoui, avec vous, monsieur le directeur, je voudrais vraiment qu'on essaie de décrypter. Alors, tout d'abord, vraiment des questions extrêmement, évidemment, simples. Est-ce qu'on peut être inquiet sur les perspectives économiques à venir, par exemple ?
Alors, je dis, hein, la récession est violente. Ça, c'est y a pas, et on dépasse tous les standards, et notamment celle de 2008. En revanche, je viens de le dire, les mesures d'accompagnement colossales, et surtout la nature de ce choc. Ce choc économique est lié à une pandémie, donc à un choc comme exogène. Et normalement, tout ça fait que ça devrait être transitoire. Alors, bien entendu, une fois que j'ai dit ça, tout va dépendre de la manière dont on va gérer notamment la suite de cette pandémie et notamment la seconde phase qui est la phase de déconfinement. Et là, on a quelques indices précurseurs. Regardons ce qui se passe en Chine. Ils ont géré ça en trois phases. Ils sont dans la troisième phase qui est toujours la phase de déconfinement mais avec relâchement notamment des distanciations sociales. Et on voit que l'activité économique manufacturière est repartie même si elle repart très très graduellement. Donc normalement, tout ça doit être transitoire avec une grande incertitude qui est combien de temps ça va durer, est-ce que ça dure un trimestre ou deux ou un peu plus, et ça va dépendre encore une fois de la réussite ou non.
Alors j'ai envie de vous poser la question, monsieur le directeur, j'ai envie de vous me pousser à poser cette question qui est dans l'esprit évidemment de beaucoup de gens. Le 11 mai, une reprise progressive. Le 11 mai, un déconfinement également progressif. Est-ce que c'est aussi pour relancer l'économie française ?
Mais c'est effectivement pour relancer l'économie française et pas, c'est ce qu'on constate partout dans le monde. Mais pourquoi ? Mais parce que, si vous voulez, je crois qu'il était normal que les États, même s'ils l'ont fait de manière un peu désordonnée, en tout cas, on voit qu'il y a des grandes différences en termes de résultats, notamment entre la France et l'Allemagne, mais on ne va pas polémiquer. Donc les États ont raison de mettre en place des confinements pour casser la vague épidémiologique. Et donc, il faut réouvrir, parce que sinon, les conséquences seront pires. Si vous voulez, on ne peut pas continuer pendant des mois à s'endetter, à exploser les dettes des États pour payer du chômage partiel, pour faire des crédits à taux garanti, ou en tout cas en garantissant les crédits. Ça ne peut pas durer très longtemps, parce que sinon, les conséquences économiques seront... Et là, on aura la grande dépression des années 30 et les raisins de la colère avec des mouvements sociaux. Et on sait ce qui s'est passé après les années 30. Hein, je crois que tout le monde connaît son histoire.
Alors, je le disais, vous êtes économiste, vous êtes stratégiste, même si on connaît votre fonction aujourd'hui, directeur adjoint de la gestion active financière de la banque donc privée BPE, c'est la banque privée donc de la Banque Postale, du groupe de la Banque Postale. Dites-moi, vous, en tant que gestionnaire de portefeuille financier, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, après le 11 mai, l'après, est-ce que selon vous, l'économie risque d'être relancée cet été ou à partir du mois de septembre, comme le prédisent certains ?
Alors, c'est vraiment ça le débat, vous avez raison, et c'est ça qui anime notamment les marchés financiers. Au moment où on se parle, le CAC 40 est en train de perdre 4% après avoir repris pratiquement 20% par rapport à ses points bas du 18 mars, et c'est ça qui va animer, et il n'y a pas de certitude en fait. Nous, si vous voulez, On travaille avec l'hypothèse qu'on devrait avoir un point bas sur l'activité économique au deuxième trimestre et donc avoir un début de redémarrage comme en Chine à partir de cet été. Maintenant, il est clair que si dans 15 jours, on va dire à partir du 11 mai, donc c'est à partir de fin mai, début juin, on voit les cas épidémiologiques repartir à la hausse. Il est clair qu'il va falloir resserrer et donc on va retarder le redémarrage de l'économie. Donc pour le moment, je pour être complètement honnête avec vous, c'est un peu le brouillard parce que ça va dépendre encore une fois de la réussite ou non de ces déconfinements qui vont être mis en place, qui ont déjà commencé dans certains pays européens et qui vont être mis en place en France à partir du 11 mai. Mais l'idée, c'est que ça repart quand même sur le second semestre. On verra si c'est le troisième ou le quatrième. Ça a son importance pour les bourses, bien entendu, mais pour le moyen terme, ce n'est pas très important. Le plus important, c'est qu'on soit sûr que ça reparte sur le second semestre.
Alors justement, autre sujet, on reste dans le monde économique, autre sujet, c'est celui de l'immobilier. Alors, paraît-il, après le confinement, et la crise du coronavirus, est-ce qu'il y a des conséquences sur le marché immobilier? Est-ce qu'aujourd'hui, les acheteurs, par exemple, vont pouvoir reprendre la main?
C'est effectivement un sujet très important parce qu'en plus l'immobilier est crucial en France. Là, il y a plusieurs, quand on parle de l'immobilier, en réalité, il y a plusieurs marchés. Il y a le marché de l'immobilier commercial qui souffre déjà et qui va souffrir énormément, et notamment tout ce qui est baux commerciaux. Et puis il y a l'immobilier, je pense que votre question est là-dessus, l'immobilier plutôt résidentiel, où là, tout va dépendre. Là aussi, il y a plusieurs marchés. Je pense que la probabilité d'avoir une baisse des prix dans tout ce qui est dans tous les segments de qualité, c'est-à-dire en général bien placés, près des écoles, près des transports, je ne suis pas certain qu'on ait des baisses de prix significatives, peut-être un tassement. Et donc là-dessus, je ne suis pas certain que les acheteurs puissent avoir la main. En revanche, dans les segments, je dirais, plus intermédiaires ou de moins bonne qualité, ou qui a eu tendance à flamber depuis maintenant 2-3 ans, parce que c'est comme pareil, quand les choses de bonne qualité montent, même les choses de moyenne qualité montent également. Là, pour le coup, on va certainement retrouver des bonnes affaires, parce qu'un certain nombre de biens n'avaient rien à faire sur ce niveau de prix. Après, il faut différencier entre Paris, la région parisienne, la province, on va avoir des choses très, très différentes. Et puis, bien entendu, la question des taux d'intérêt pour savoir s'il y a quand même un petit risque que les taux d'intérêt remontent un peu quand même par rapport au niveau où ils étaient en ce début d'année. Donc, tout ça fait qu'il y aura certainement des affaires, mais je ne pense pas pour le moment, à moins qu'on ait une crise beaucoup plus grave que celle à laquelle je m'attends. Je ne vois pas, encore une fois, l'immobilier. Rappelons-nous qu'en France, on manque de logements. On ne produit pas assez de logements. Donc, il va y avoir plutôt un écroulement de l'offre. Je ne suis pas sûr que ça se traduise par une très très forte baisse des prix.
Dites-moi, Rachid Medjaoui, monsieur le directeur, quelles sont selon vous les perspectives pour les marchés financiers à terme, là, dans les semaines à venir?
Alors, dans les semaines à venir, on le voit aujourd'hui. Je vous dis, on a fait un bon mois d'avril, mais ce matin, on est en train de perdre pratiquement tout ce qu'on a gagné sur le mois d'avril, en tout cas sur la place parisienne. Ça va dépendre encore une fois de comment on exécute au fond le déconfinement. Logiquement, on est sur des niveaux, si vous voulez, plutôt bas, parce que les bourses sont quand même en baisse de pratiquement presque 25 ou 30% depuis le début de l'année. Je pense que il y a des choses à faire pour ceux qui ont le temps, pour ceux qui ont un horizon de placement de moyen long terme. Je pense qu'aujourd'hui, diversifier son épargne, en particulier sur les placements qui rapportent un peu plus, n'est pas déraisonnable. Il faut vraiment avoir le temps, il faut accepter la volatilité qui va rester très très forte, parce que, à contrario, malheureusement, les alternatives, c'est-à-dire des placements sûrs qui rapportent, il n'y en a plus. Je vous rappelle que les taux d'intérêt sont à zéro, voire en négatif, et donc si on n'accepte pas de prendre un peu de risque, mais parce qu'on a le temps, je répète, parce qu'on a le temps, eh bien, on est sûr, pour le coup, d'avoir le pouvoir d'achat de son épargne qui va se détériorer. Donc, à 6 mois, beaucoup de volatilité. On espère quand même que les marchés vont tenir et qu'on ne va pas casser les points bas du 17 ou du 18 mars. Et pour ça, ça va dépendre du déconfinement et, bien entendu, un peu de la situation américaine avec ce nouveau front ouvert par le locataire de la Maison Blanche. On espère qu'il ne va pas passer à l'acte en termes de nouveau de guerre commerciale avec les Chinois, parce que pour le coup, ça serait un facteur de fragilité supplémentaire qui nous ferait assez mal.
Merci infiniment, Rachid Medjaoui. Je vous le rappelle à nos auditeurs, vous êtes directeur adjoint de la gestion active financière de la banque privée BPE. Vous êtes économiste stratégiste et vous gérez, vous êtes gestionnaire de portefeuille financier. Merci d'avoir été avec nous, Rachid Medjaoui, et de nous avoir apporté cet éclairage qui était hyper important pour, évidemment, pour le grand déballage. Merci, à très bientôt.
Merci à vous, au revoir.
Et on va marquer une courte pause pub. On se retrouve dans une poignée de minutes. Juste après, ce que je vous propose, c'était de couvrir le portrait d'Hakim Ben Othman, et propriétaire de plusieurs restaurants. C'est le premier en Europe d'avoir. C'est le premier kebab, j'ai envie de dire, halal. Bref, on marque une pause et vous allez tout comprendre juste après. À tout de suite.
Beurre FM, midi 13h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Précisément dans le grand déballage sur Beurre FM. Si vous venez de le retrouver, sachez-le, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Et on s'intéresse aujourd'hui plus particulièrement pour démarrer de cette semaine sur un volet, évidemment, la crise sanitaire qu'on est en train de vivre. Et puis à la fois aussi, cet angle que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir évidemment l'économie de demain et puis surtout la manière dont les restaurants et puis ceux qui vont retrouver le chemin tout doucement, vous savez, dès le 11 mai, et bien la route de leur employeur et puis aussi de leur travail. Alors, entrepreneur à succès, Hakim Ben Othman, vous savez, il s'est fait connaître au milieu des années 2000 en lançant l'enseigne Nabab Kebab. Il a, on peut le dire, en quelque sorte révolutionné le kebab en Europe. Alors, il est avec nous, c'est mon invité aujourd'hui, Hakim Ben Othman, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, comment vous vous portez? Dans quel état d'esprit vous êtes? Comment vous le vivez, ce confinement, Hakim Ben Othman?
Bon, on est bien, on est serein. Fermeture des restaurants jusqu'au 11 mai où on va reprendre la livraison. Après, si vous voulez, on s'adapte, quoi. Hein, ça permet de réfléchir et de se préparer à l'après-confinement.
L'après-confinement, justement, parlons-en. Vous êtes à la tête du groupe FBH Food, qui a vraiment diversifié toutes ses activités dans le cadre de la restauration rapide. Aujourd'hui, combien de salariés en France, en Europe ou dans le monde, et combien, évidemment, où en êtes-vous aujourd'hui pour parler de votre groupe?
Aujourd'hui, c'est 1000 salariés à travers le monde, dont 500 en France. D'accord, c'est la moitié du marché. C'est un groupe de restauration qui a démarré avec Nabab Kebab en 2003. Ensuite, on s'est diversifié sur le domaine de la franchise en 2007. Et on a créé d'autres marques en 2013-2014. Donc toujours autour de la thématique halal, c'est des restaurants qui sont toujours halal, sur les différentes thématiques de restauration. Donc on est sur le kebab, sur le taco, sur l'indien aujourd'hui, il y a un concept indien qui est en train d'être mis en place. Et on prépare l'avenir, et notamment le digital, avec tout ce qui est dark kitchen. On va ouvrir fin d'année la première dark kitchen FBH, avec toutes les enseignes.
Ah, vous nous l'annoncez quasiment en exclusivité, là, sur le grand déballage sur BFM.
C'est sur les clients, on travaille dessus depuis 6 mois et elle devrait voir le jour un peu plus rapidement que prévu.
Notamment. Alors justement, vous nous avez cité toutes ces enseignes. Aujourd'hui, est-ce que vos salariés sont en chômage partiel? Comment ils vivent cette crise sanitaire, cette épidémie du coronavirus? Est-ce qu'il a fallu pour vous, PDG, président, jeune président d'ailleurs, parce que rappelons-le, vous êtes évidemment encore jeune, vous avez 35-36 ans aujourd'hui à la tête de FBH Food. Comment vous avez pour vous-même géré ces 1000 salariés en France, en Europe et dans le monde?
Alors, dans le monde, ça dépend, c'est au cas par cas, parce que c'est des masters franchisés qui sont sur place. En France, on a mis l'ensemble en chômage partiel, sauf les franchisés qui ont voulu garder leur restaurant ouvert. Mais pour nous, tout ce qui est succursale, les restaurants intègres au groupe, c'est en chômage partiel pour l'instant. Après, les managers de restaurants ont voulu réouvrir. On a préféré attendre pour protéger les clients, les collaborateurs. Et je pense que le 11 mai, avec la reprise des différentes activités, c'est le bon moment.
En attendant. Quelle a été votre contrainte, Hakim Ben Othman? Votre contrainte, c'est quoi? C'était de consolider d'abord les bases que vous aviez aujourd'hui pour pérenniser votre activité ou revoir votre stratégie?
Disons que le groupe FBH est en restructuration complète depuis un an. On est en train de tout restructurer pour développer beaucoup plus rapidement et plus de marques. Donc ça nous a permis de revoir la stratégie et qui va être notamment digitale, parce qu'on croit de plus en plus au digital. Ça peut représenter d'ici 3 ans 60% de nos chiffres d'affaires. Donc, est-ce que les restos vont rester des restaurants? Est-ce que ça va devenir des labos dédiés au click and collect, à la livraison? Quel va être le comportement des clients dans les années à venir, quoi? C'est tout ce qu'on étudie actuellement.
Vous êtes en quelque sorte en train de nous annoncer que vous êtes en train de préparer l'avenir, c'est-à-dire l'avenir numérique.
Tout à fait. L'avenir du numérique de ce marché de la restauration. Tout à fait. On voit que les agrégateurs de livraison prennent de plus en plus de place sur nos chiffres d'affaires. Beaucoup de restaurants deviennent dépendants aujourd'hui. Et donc, on est en train de réfléchir à tous ces nouveaux outils qui nous permettent de croître notre chiffre d'affaires.
Alors, Hakim Ben Othman, ça se traduit par quoi, justement, cette digitalisation de votre restauration? Est-ce qu'on a des cas de figure précis, par exemple?
Aujourd'hui, on a préparé les nouveaux concepts, par exemple, Nabab. Il y a un comptoir qui va être dédié exclusivement à la livraison, au click and collect. On est en train de préparer également des restaurants labos. C'est-à-dire, on travaille sur le digital, mais aussi, malgré que ce soit le digital, le client a besoin de savoir comment ça se passe dans le restaurant. Il va y avoir ce qu'on appelle chez nous des restaurants transparents, où vous allez voir la viande se faire devant le client, donc le montage des viandes jusqu'à la cuisson et la vente. Et donc, c'est digital, mais en même temps, on retourne vraiment à la base du métier.
Donc ça veut dire que demain, c'est le repas à quoi justement il va ressembler justement. Et comment vont être vos tables, les tables par exemple des restaurants demain? Est-ce qu'elles vont être séparées? Est-ce que vous avez commencé à revoir la stratégie de la réouverture de vos restaurants?
Oui, on respecte ce que l'État met en place avec les mesures de distanciation. Si vous voulez, c'est tout ce qu'on est en train de revoir. Ça va être mis en place à l'ouverture des restaurants. Mais on prépare surtout l'après. Qu'est-ce que le client va rechercher après? En plus, on ne sait pas comment la restauration va reprendre. Bon, pour nous, la restauration rapide va moins souffrir que la restauration assise. Parce que, je pense pas que ça reprendra à 100% de ce qu'il y avait auparavant.
Est-ce que ça sous-entend que vous êtes en train de vous réinventer?
Tout à fait, tout à fait. Bon, ça faisait déjà un an qu'on était en train de réinventer justement l'histoire du groupe. Ça accélère. Cette épidémie n'a fait qu'accélérer notre stratégie et notre vision à terme.
Est-ce que Hakim Ben Othman, par exemple, vous avez cette contrainte de revoir justement les normes sanitaires avec la crise sanitaire qui seront davantage renforcées? Je parle du 11 mai, quand évidemment le déconfinement va se faire de façon progressive. Et puis on parle de la réouverture de la restauration plutôt une période de juin, et la distanciation, qui s'impose et qui s'imposera après le 11 mai.
Alors, ce qu'on a prévu dans nos restaurants, c'est d'une part la distanciation sociale avec les tables, le réaménagement des restaurants. On a prévu tout ce qui est le gel, ainsi que des portiques qui prennent la température. Donc, à l'entrée de l'intégralité des restaurants, il y aura vraiment un portique qui prend la température du client. On ne refuse pas le client, mais ça permet d'avoir une visibilité claire pour nos collaborateurs. Et en attendant que cette crainte se dissipe, parce qu'aujourd'hui, c'est la crainte client qui nous fait le plus peur, quoi.
Elle vous fait peur pourquoi, Hakim Ben Othman?
Est-ce que les clients vont reprendre leurs habitudes comme avant ou pas? Ou est-ce qu'on va être dépendant de plus en plus du digital comme on est en train de le voir? On ne sait pas vraiment. Est-ce qu'il y a des clients qui vont avoir cette crainte? Cette crainte, elle va durer 2 mois, 6 mois? Est-ce qu'elle va durer 1 an? L'enjeu, il est là aujourd'hui.
L'enjeu, il est là aujourd'hui. Quand on voit la success story, justement, qui est la vôtre, vous disiez vous-même, vous êtes en quelque sorte un autodidacte et puis un self-made man. Est-ce que ça vous parle?
Oui, on avait quand même une vision au niveau du halal. Moi, j'ai toujours cru au marché du kebab et au marché du halal. On était vraiment la première franchise à thématique halal en Europe. Aujourd'hui, j'y crois encore plus parce qu'on lit des études, on sait que le halal est en forte progression permanente. Aujourd'hui, il faut mixer ça avec le digital et on prépare la vision de demain. Après, je ne peux pas tout dire là-dessus non plus parce que c'est notre stratégie, mais je pense qu'on a une petite idée sur ce qui va se passer.
Une petite idée sur ce qui va se passer, évidemment, je comprends les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas dévoiler, et c'est normal, c'est les recettes, évidemment, de la restauration. Une petite question toute simple, celles et ceux qui vous écoutent, vous savez, partout en France, et aussi vos clients, aujourd'hui, comment vous les préparez? Qu'est-ce que vous avez envie de leur livrer comme message pour l'après? Est-ce que les choses seront différentes? Est-ce que, par exemple, ce ne sera plus comme avant, finalement?
Alors, notre recette de kebab sera toujours la même. On part plus sur des produits de plus en plus écolos, avec tout un système d'emballage écolo. On part sur des produits de plus en plus frais. On maintient toujours la qualité de nos restaurants, parce que depuis le début, j'ai toujours favorisé des produits de choix et de qualité. Donc ça, on le maintient, mais on va se rapprocher de plus en plus des produits frais. Tout en digitalisant ça, il y aura vraiment un retour à la source, comme les premiers nababs qu'on ouvert en 2003. Je pense que le client aujourd'hui
juste avant...
va vouloir... Oui.
Juste avant vous, le client, je vous laisse pas d'abord non terminer. Vous disiez le client aujourd'hui?
Le client aujourd'hui, il va vouloir un prix qui soit accessible, c'est-à-dire on est toujours autour des 10 euros, mais il va vouloir un produit de plus en plus qualitatif. C'est-à-dire un produit frais, un produit origine France. Ça fait bientôt 16 ans qu'on fait ce métier. On a toujours travaillé avec des viandes françaises de Bretagne. C'est des choses qu'on ne changera pas. Mais on ira de plus en plus sur du frais et encore plus sur de la qualité. Les normes d'hygiène des nouveaux restaurants vont être encore décuplées en prenant bien sûr en compte ce qui s'est passé avec cette crise sanitaire. Pourquoi pas maintenir ces distanciations sociales dans l'agencement des restaurants à venir? Et notre place va se jouer de plus en plus sur le drive. L'intégralité, enfin même 90% on va dire, des futurs restaurants qui vont ouvrir en marque nabab vont être en drive. Premièrement parce que ça touche les familles, et deuxièmement parce que je pense que le drive va être le gagnant des prochaines années.
Hakim Ben Othmane, une question évidemment, de la crise sanitaire à la crise économique. Est-ce que vous-même, votre groupe, vos restaurants, la restauration rapide a connu un impact considérable vous concernant? Est-ce qu'il y a eu un recul, par exemple, de votre chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'inédit que vous avez connu aujourd'hui concernant cette crise sanitaire aujourd'hui qui bascule vers ce choc de crise économique?
Il y aura forcément un recul de chiffre d'affaires parce que ça va faire bientôt 2 mois que nos restaurants sont fermés, enfin que la grande partie des restaurants sont fermés. Mais les pouvoirs publics font très bien leur travail. Aujourd'hui, il y a le chômage partiel, il y a des aides aux entreprises. La France est tout de même un des pays qui fait le plus d'efforts là-dessus. Donc, en réalité, la perte, elle est beaucoup moindre grâce à ce que le gouvernement met en place.
Hein. Oui.
Donc on est bien sûr que s'il n'y avait pas d'aide du gouvernement, je pense que 50% des restaurants auraient fait faillite. Tout dépend après de la trésorerie.
Est-ce que l'État aujourd'hui a été à la hauteur, évidemment, de cette gestion de crise en direction, par exemple, vous êtes dans la restauration. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que l'État a été à la hauteur?
Oui, je pense. Je pense que l'État français a été à la hauteur, clairement. On a des restaurants également en Angleterre, dans d'autres pays, où c'est complètement différent, hein, où on laisse les commerçants à l'abandon, où les faillites se multiplient. Aujourd'hui, en France, je pense que le travail a été très, très bien fait par le gouvernement. Donc après, le vrai problème,
dernière
c'est
question.
Pas le confinement.
Oui, le vrai problème.
Le vrai problème, c'est pas le confinement. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe. C'est l'après-confinement. Est-ce qu'on va retourner à nos chiffres d'affaires réels ou est-ce que on va avoir nos charges? Vous savez, on a des charges, il y a le loyer, il y a plein de choses. Mais est-ce qu'on va avoir des charges fixes égales à l'avant-confinement avec une reprise d'activité lente? Et c'est là où va se jouer la réelle problématique.
Alors, ma dernière question à Hakim Ben Othmane, vous qui êtes à la tête de FBH Food, le groupe, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui? Est-ce que vous nous avez annoncé évidemment ici même dans le grand déballage la digitalisation de votre restauration rapide notamment, que vous voyez que le développement du drive, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs qui vous écoutent?
J'ai envie de leur dire que le groupe, ça fait un an et demi qu'il travaille sur une restructuration des marques. On a appelé ça Vision 2030. Alors, on n'a pas appelé ça comme ça pour rien. On prépare un nouveau design de restaurant très futuriste, des restaurants hyper digitalisés et une nouvelle stratégie marketing très puissante permettant d'apporter plusieurs thématiques et sur plusieurs domaines de restauration différents, tout simplement.
Bien. En tout cas, on l'aura noté, vous êtes donc un entrepreneur à succès, Hakim Ben Othmane. Je le rappelle, vous êtes fait connaître en 2003 précisément avec Nabab Kebab, le premier, la révolution d'ailleurs du marché du kebab halal en Europe. Merci d'avoir été avec nous, Hakim Ben Othmane. Et évidemment, on vous souhaite bon courage et bonne reprise si elle se fait au mois de juin ou au mois de juillet, par exemple.
Un grand merci à vous.
Merci Hakim Ben Othman, à très bientôt et bon courage. Il est 12h33, au revoir, à très bientôt, 12h33 précisément. Et on va retrouver, juste après la pub, eh bien, le député Alexis Corbière. Avec lui, on va mieux comprendre que va-t-il se passer le 11 mai, reprise par reprise, le chemin de l'école ou pas, le déconfinement, bref, et puis les réactions aussi des annonces d'Edouard Philippe du Premier ministre. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Midi 13h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Le grand déballage quotidiennement, tous les jours, de 12h à 13h sur Beurre FM. Merci si vous venez de nous joindre derrière les lignes droites. Et tout de suite, maintenant, eh bien, vous savez, j'accueille le député de la 7e circonscription de la Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour. Merci d'être avec nous, monsieur le député Alexis Corbière. Tout d'abord, ben, écoutez, en tout cas, c'est avec plaisir, Alexis Corbière. Tout d'abord, première question, vous-même, comment vous vous portez? Dans quel état d'esprit? J'aimerais vous connaître, parce que je vous vois très actif sur votre circonscription.
Donc déjà, je me porte bien et j'ai la chance que mon entourage, mes enfants, ma compagne et même ma famille n'est pas malade. Mais on a eu, moi je suis à Bagnolet, à mon domicile, dans notre entourage militant, hélas, des gens qui ont été touchés et même des décès. Chacun le sait, en Seine-Saint-Denis, c'est quelque chose qui est très présent. Donc voilà, on fait attention. Évidemment, il faut respecter le confinement. Et puis on va en parler. Moi, je suis inquiet maintenant sur la sortie du confinement qui m'a l'air un peu hasardeuse, quoi.
Alors, monsieur le député, juste avant de parler de l'après et du déconfinement, je voulais juste m'intéresser sur, évidemment, votre département. C'est lui qui est le plus touché en Île-de-France. Qu'est-ce que vous avez envie de dire comme message? Parce que c'est vrai que c'est terrible aujourd'hui, ces dernières semaines qu'ont vécu d'ailleurs les habitants de la Seine-Saint-Denis.
Oui, c'est clair. Écoutez, bon, on fera le bilan quand tout sera terminé, mais il semble que si on reporte à l'année dernière, le nombre de décès est en augmentation de 128% par rapport à ce qu'il était au mois de avril-mai 2019. Donc c'est très significatif et notamment en particulier à cause de ce Covid. Bon, on va dire les choses simplement, on a tous été confinés dans nos inégalités et il s'avère qu'en Seine-Saint-Denis, c'est une terre de contraste où il y a aussi 27%, ce qui est le double de la statistique nationale de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et évidemment, tous ces problèmes sociaux, des problèmes d'habitation, parce que des concentrations de population dans des domiciles qui sont trop petits, des problèmes d'emploi, de précarité, d'économie informelle pour s'en sortir, etc., tout ça a été, comment dirais-je, augmenté par ce confinement. Et voilà, donc par exemple, l'explication que donne le préfet, et je ne suis pas loin de la partager, du fort nombre de décès en Seine-Saint-Denis, c'est que si les gens ont un rapport distancié à la santé, parce que ça coûte cher, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller voir un médecin, n'ont pas l'habitude d'appeler quand ils ont des problèmes de santé, et ils sont arrivés souvent fort tard aux urgences, donc ça a causé la mortalité. Et puis deuxièmement, c'est ceux qui sont allés bosser aussi dans notre département, pardon de l'expression triviale, mais les 30% de gens qui ont continué à aller au travail, vous savez, ceux qui vidaient les poubelles, ceux qui étaient sur le terrain, que tous ces héros dont on a parlé, le gouvernement dit qu'ils étaient fabuleux, ces personnels hospitaliers, etc. Et évidemment, ils ont pris des risques, et souvent ils ont été plus exposés. Donc on a un département terriblement touché par la maladie, et hélas, il y a beaucoup, beaucoup de décès.
Donc si j'ai bien compris, vous attendez le déconfinement, vous attendez évidemment qu'on sorte de cette crise sanitaire pour pouvoir évidemment brosser, faire un constat et puis évidemment aller saisir et poser toutes ces questions, notamment à l'Assemblée nationale, par exemple.
Voilà. Bon, il y a une difficulté, c'est clair qu'on vient de traverser 7 semaines, 8 semaines, où durant le confinement, les gens ont d'abord envie d'efficacité et il faut une unité d'action par rapport à ce qui était indispensable. C'est vraiment pour laquelle, moi j'ai toujours dit, les mesures sanitaires de respect du confinement, pas de polémique, il faut les respecter, c'est nécessaire, etc. Mais c'est évident que ce qu'il faut aussi, c'est plus jamais revivre ça. Et il ne faut quand même pas raconter de sottises. Ce gouvernement nous a amené, en raison des 3 années précédentes au confinement, qui quand même a posé des problèmes, et même pendant le confinement, franchement, ils n'ont pas brillé. Rappelez-vous, au début, ils ont expliqué que finalement, le port du masque n'était pas indispensable. Le 3 mars, le président de la République a dit qu'on allait éviter l'épidémie. Le 6 mars, il était sorti au théâtre, dans la rue, en disant qu'il n'y avait pas de problème, que la vie allait continuer. Puis tout s'est accéléré après, alors une semaine plus tard, c'était le début du confinement, alors que les mêmes, face au gouvernement, ont longtemps essayé de minimiser la chose. Pourquoi il y a eu un confinement? C'est aussi parce que nos capacités d'absorption à l'hôpital ont été réduites en raison de choix politiques. Il y a de moins en moins de lits de réanimation. Et d'ailleurs, on a vu, il a fallu, dans l'urgence, en rouvrir d'autres. Donc on voit bien tout ça quand même, il faudra en parler après. Parce que le problème, c'est pas seulement de pleurer nos morts et de dire, on s'est tous serré les coudes, il y a eu de la solidarité, il y a eu des personnes hospitalières merveilleuses, mais on veut pas revivre quelque chose d'aussi intense. Donc il faut une autre politique. C'est un beau mot, la politique.
Monsieur le député, finalement, qu'est-ce que vous dénoncez dans cette gestion de la crise sanitaire, à la fois par le président de la République, mais également aussi par le gouvernement? Qu'est-ce que vous dénoncez précisément, monsieur le député?
Alors, précisément, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui n'a pas anticipé l'arrivée de ce virus et qui, en raison d'une vision, je viens de le dire, notamment de réduction de dépenses pour les services publics, avait affaibli notre hôpital public et a créé les conditions que, face à une épidémie, assez rapidement, ce soit le chaos. On a un gouvernement qui, par exemple, n'a pas compris qu'il fallait avoir un stock de masques de hauteur significative face à ce type de crise. Et il a laissé notre stock national de masques, qui a eu été beaucoup plus élevé, progressivement se vider, parce qu'il considérait qu'avec le marché aujourd'hui, si on avait un besoin de masques, on en achèterait ailleurs, en Chine ou ailleurs. En gros, ils sont restés enfermés dans cette idée de il y a des endroits du monde que c'est l'atelier, des endroits où on fabrique. Et puis nous, en France, on est les plus intelligents, on est dans le secteur tertiaire et on laisse les entreprises partir. Je prends un exemple concret. En 2018 encore, en Bretagne, il y avait une entreprise qui fabriquait chaque année plus de 200 millions de masques. On l'a laissé racheter par une boîte américaine qui a démembré le brevet, etc. Alors qu'un gouvernement aurait dû dire, mais attendez, on a besoin sur le territoire national d'avoir de la production des choses qui sont essentielles. Donc vous voyez, moi ce que je reproche à ce gouvernement, c'est une gestion hasardeuse de la crise. Et puis surtout, il est celui qui, depuis 3 ans, était sur une idée, c'est la mondialisation heureuse, dans tel endroit on produit, on laisse partir les boîtes pour le profit. On n'a pas une vision stratégique d'un État qui doit être un État protecteur, régulateur, au service de l'intérêt général. Et puis, durant la crise,
allocution, monsieur le député, par exemple, le président de la République, Emmanuel Macron, a parlé d'un gouvernement d'unité nationale. Est-ce que vous êtes partisan d'un gouvernement d'unité nationale? Est-ce que la France insoumise va participer à ce gouvernement d'unité?
Non, parce que ça ne veut strictement rien dire. Ça veut rien dire, un gouvernement d'unité nationale. C'est-à-dire, qui croit qu'il va y avoir un gouvernement où il y aura Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, en fait tout ça c'est du baratin, ça n'existe pas. Redonnons aux choses du sens. C'est quoi? Il y a des gens, on a tous des idées différentes, il y a des programmes, il y a des propositions. La question c'est quelle politique on mène, c'est pas faire une belle photographie où il y a tout le monde. Moi je vous répète, qui est l'unité d'action sur des choses qui sont nécessaires et utiles, quand par exemple le gouvernement, même si je ne suis pas d'accord avec ses choix, dit aux Français, attention, il faut se confiner. Moi, avec Jean-Luc Mélenchon, on n'a jamais failli sur le fait que c'était une consigne indispensable. Mais par contre, après, sur le nécessaire besoin aujourd'hui de réindustrialiser le pays, de relocaliser l'économie, de défendre le service public, de donner des moyens à l'hôpital public, etc., etc., je m'excuse, mais on n'est pas d'accord avec Emmanuel Macron et je ne vais pas aller faire semblant pour avoir le bonheur d'être ministre pendant un an, je dis moi ou un autre de mes amis, dans un gouvernement d'union nationale qui ne serait qu'une manœuvre.
Donc, il faut que votre parti, la France Insoumise, ne participera pas à ce gouvernement d'unité nationale.
Mais je vais vous dire la même chose, il n'existera pas, ce gouvernement d'unité nationale. C'est du baratin. Emmanuel Macron ne va pas réunir autour de lui toutes les forces politiques pour composer un gouvernement dont on ne sait pas très bien sur quel programme d'ailleurs il se réunirait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi le programme? Qu'est-ce qu'on fait pour le pays? Qu'est-ce qu'on fait pour les gens? Est-ce qu'on fait des choix fiscaux différents? C'est-à-dire, par exemple, vous vous souvenez, on avait un désaccord avec le gouvernement, il avait supprimé l'ISF, ça a rapporté 4 milliards à l'État et ils avaient considéré qu'il fallait les rendre aux plus riches parce que ça créait de l'emploi, parce que machin, bon, tout ça est un baratin. Bon, donc il faut une autre politique fiscale plus redistributive. Puis il faut aussi des mesures écologiques. Cette crise, elle montre aussi l'urgence d'avoir une autre logique dans ce qu'on produit, comment on le produit, au service de qui. Moi, je pense que l'économie, elle va être au service de l'humain, quoi, au service des gens et pas au service du profit. Mais ça, c'est pas le monde d'Emmanuel Macron. Voilà. Et ça, franchement, faut pas prendre nos concitoyens pour des imbéciles. C'est pas parce qu'ils ont vécu 8 mois de confinement que leur cerveau il est confiné. On va devoir en discuter à la sortie, tranquillement, démocratiquement, commencer à le faire. Le débat politique, des élections, des mobilisations sociales pour exprimer éventuellement qu'il y a des protestations. C'est pas parce que le confinement a eu lieu que d'un seul coup, vous voyez, le débat doit s'arrêter. Pourquoi? Pour laisser ceux qui sont actuellement au gouvernement continuer à agir? Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut les changer, mais je pense qu'il faut...
Alors, justement, on va parler, vous savez quoi, de l'après, de ce fameux déconfinement. Alexis Corbière, monsieur le député, des décisions et des déclarations donc, ont été faites par Édouard Philippe, le Premier ministre. Par exemple, cas concret, retour à l'école. beaucoup se posent la question aujourd'hui, faut-il emmener son enfant à l'école? Vous-même, par exemple, vous avez des enfants. Avez-vous prévu de remettre vos enfants sur le chemin du 11 mai?
Mais moi, je fais partie de tous ces gens qui sont très inquiets sur le 11 mai. Et je ne sais pas, j'ai une gamine en CP, si je la remets à l'école encore. Je ne le sais pas. Par exemple, demain, le préfet et le recteur font une réunion avec les élus pour nous dire les conditions dans lesquelles eux, ils voient la rentrée. Mais on est tous très inquiets. Je vous rappelle juste qu'il y a 300 maires, là, qui ont encore écrit pour dire au président de la République, on n'est pas prêt pour cette rentrée. Donc, je comprends très bien. Et moi, comme député, on ne cesse de me parler de ça depuis une semaine. C'est notamment souvent les mamans. Tout le monde est inquiet. Et en conscience, je ne peux pas leur dire, ayez confiance, mettez votre gamin à l'école. Pourtant, c'est fabuleux, l'école. Hein. Il faut qu'elle reprenne, il faut que les enfants puissent étudier, retrouver leurs petits copains. Mais en conscience, je ne peux pas apporter une réponse affirmative. C'est quand même terrible de se dire ça. Pourquoi? Parce que personne ne croit que le protocole sanitaire dont le gouvernement a envoyé au maire, c'est-à-dire les distances nécessaires, les nettoyages réguliers dans les écoles, etc., concrètement, ce n'est pas possible. Voilà.
Vous êtes en train de nous dire clairement que c'est difficile à appliquer?
Mais bien sûr, tout le monde, c'est pas que moi, hein, parce qu'Alexis Corbière là-dedans, il est peanuts, mais regardez ce que les 300 maires ont encore fait dans un appel en disant « ce n'est pas possible ». Et ce n'est pas des gens qui veulent polémiquer nécessairement avec Emmanuel Macron, ce n'est pas des insoumis, des merdes.
Donc, monsieur le député, vous êtes en train de nous dire que le 11 mai, beaucoup de parents, et comme vous d'ailleurs, sont encore dans le flou total.
Ah, mais ils ont la trouille, écoutez, vous connaissez la Seine-Saint-Denis, les gens sont confinés souvent avec les grands-parents, il y a la grand-mère à la maison. Mais moi, encore une dame, l'autre jour, les larmes aux yeux, m'a dit « mais si ma petite, elle va à l'école, peut-être qu'elle va ramener le virus et ma mère va l'attraper ». Qu'est-ce que je lui réponds à cette dame ? Non, tranquillisez-vous, ça n'aura pas lieu ? Eh bien, je ne sais pas, moi. Les gens ont peur. Et le gouvernement, il a proposé une date le 11 mai, il fallait peut-être en proposer une, mais qui n'était pas le débouché logique de toute une série de mesures. Des masques pour tous, des tests en nombre significatif. Franchement, les masques, j'ai encore reçu un message du maire là, de Bagnolet, prochainement il va y en avoir. Et bon, et je l'en remercie, mais c'est l'État qui aurait dû mettre le paquet pour dire qu'il y a une distribution massive de masques. Oui. Et puis, on veut nous faire pleurer en disant, oui, mais les gamins les plus défavorisés, ils se sont éloignés de l'école, il faut que l'école reprenne. Mais si c'est sur la base du volontariat, vous connaissez la vie, c'est souvent les gamins qui sont le plus en difficulté avec l'école qui ne vont pas venir. Justement. Donc tout ça, c'est du baratin. C'est du baratin. Et puis ce qui me met encore plus en colère, pardon de vous le dire de manière passionnée, c'est que la rentrée prochaine, à Montreuil, à Bagnolet, puis même en Seine-Saint-Denis, ils maintiennent des fermetures de classe où il va y avoir plus de gamins. Oui. Donc s'ils veulent l'urgence pour l'école publique, et il faut l'école publique républicaine, parce que c'est ça qui a de magnifique, c'est ça qui nous éduque, mettez les moyens, y compris pour la rentrée prochaine. Parce que là, les
Donc vous êtes en train de me dire clairement. Clairement, si les auditeurs, moi, comme je suis un peu pragmatique, les auditeurs qui se posent la question aujourd'hui, les enfants à l'école après le déconfinement, donc le 11 mai, grand point d'interrogation, clairement.
Ah ben oui, non mais même moi, je vais vous dire les choses très, très concrètement, moi je pense que je ne les mettrai pas. Mais après, ce que me disent les gens, et c'est aussi une question que je pose à travers votre antenne ou gouvernement, ceux qui bénéficiaient de chômage partiel, ceux qui étaient en arrêt maladie, ils vont pouvoir garder ce dispositif ? Parce que si l'employeur il appelle à la maison en disant « faut reprendre le boulot » et que les gens disent « mais moi je veux garder mon enfant », l'employeur il va dire bah, « c'est une rupture, voilà, vous ne vous présentez pas, les gens risquent de perdre le boulot ». Donc ça aussi c'est un non-choix dont propose le gouvernement, c'est que si il n'y a pas ce dispositif qui continue, bah, les gens ne pourront pas choisir entre leur boulot et aller mettre le gamin à l'école. Donc moralité, c'est quoi la manière dont tu vois l'école, le gouvernement ? C'est une garderie pour que les enfants, des ouvriers, des employés, tous ceux qui vont reprendre le boulot, puissent retourner au boulot, mais ce n'est pas une réponse à la hauteur de ce qu'on attendait, vous comprenez ? Donc moi, je le dis à tous, je comprends l'inquiétude qui monte, et j'affirme, parce que je ne veux mentir à personne, que je ne vois pas un dispositif national aujourd'hui en capacité de garantir le 11 mai une reprise de l'école, en faisant en sorte que les gamins, les enseignants, les personnels, que tout le monde soit sécurisé. Voilà, ça va se passer au cas par cas, mais c'est terrible. Il y a des endroits, des communes riches, je pense à Paris, ou peut-être...
Monsieur le député, comme il nous reste deux minutes avant de rendre l'antenne. Monsieur le député, juste pardonnez-moi, comment vous voyez l'après, justement, déconfinement, l'après 11 mai? Est-ce que la vie sera finalement comme avant? Est-ce qu'on va retrouver une vie normale? Est-ce que vous redoutez fameuse deuxième vague, justement, qui risque d'être redoutable?
Je redoute la deuxième vague. Il y aura même mécaniquement une deuxième vague. La question, c'est est-ce que notre hôpital public et notre système de santé est en capacité de l'accueillir. Mais à partir du moment où le virus va recirculer, il y aura plus de gens contaminés. Ça, c'est une évidence. Après, je ne sais pas si, je veux dire, on sera en capacité d'y faire face ou si ça se passera bien. Mais deuxièmement, je vais vous dire une chose simplement. Moi, je ne veux pas revenir au monde d'après. Je ne veux pas revenir au monde d'après parce que le monde d'après, c'est celui qui. Du monde d'avant, pardon. Je ne veux pas revenir au monde d'avant le confinement parce que le monde d'avant, c'est celui qui a créé les conditions du chaos dans lequel on est. Moi, je veux un monde où on donne vraiment les moyens aux hôpitaux publics. Je veux un monde où, véritablement, on a un système de santé qui est à la hauteur des problèmes. Je veux un monde où ce n'est pas les plus riches qui peuvent se confiner dans de bonnes conditions et les milieux populaires qui se confinent à 5, 6 ou 7 dans un petit appartement. Donc, il faut que le monde, il change. Pour justement qu'on n'ait plus ce même type de problème à venir. Ben ça dépend de quoi? Ça dépend de nous tous. Il faut qu'on soit en capacité, le peuple, j'ai envie de dire, avec toutes nos différences, de débattre entre nous et se dire, voilà, comment on fait pour changer le monde, pour le rendre plus beau? Pensons, on est dans un pays en plus qui est riche, on peut partager des richesses autrement, on peut réfléchir à un autre mode de production, on peut se dire que quand même c'est plus important l'hôpital public que le profit de certaines entreprises privées qui produisent des bêtises, etc. C'est des choix politiques. Et il faut que le peuple il se mêle de ses affaires, moi c'est ce que j'ai à dire. Sans le peuple, on ne peut rien faire. Eh bien, pour ça, il y a le débat politique qui continue. Vous savez, moi j'ai l'impression quand je regarde les réseaux sociaux que les gens ils n'ont jamais autant parlé politique que pendant le confinement. À travers vos radios,
merci.
Les émissions, tout le monde a discuté.
Un grand,
allez, bon courage à tous.
Un grand
bon
merci. Merci à vous, monsieur le député. Merci à Alexis Cobière d'avoir été avec nous dans le grand déballage. Merci. 12h56, merci à la réalisation à Tom. Donc, qui a été avec nous jusqu'à 13h. On se retrouve demain, même rendez-vous, même lieu, 12h, 13h, le grand déballage. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao sur Beurre FM.
Retrouvez le grand déballage tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.